L'objectif de cette vidéo est de présenter la notion d'encapsulation dans les langages de programmation orientés objet. Pour présenter cette notion d'encapsulation, je vais partir de la représentation abstraite d'un programme qui n'aurait pas recours à l'encapsulation. Imaginons que j'écrive un programme Python avec un certain nombre de fonctions. Mes différentes fonctions vont manipuler un certain nombre de variables que j'ai dénotées ici avec un G pour indiquer que ce sont des variables globales. Donc si je représente abstraitement comment mon programme fonctionne, avec des flèches indiquant si une fonction lit ou écrit une variable globale, voilà une représentation raisonnable de ce que font mes fonctions en relation à mes variables. Quel problème est-ce que ça pose ? Le problème, c'est que toutes les fonctions peuvent lire, modifier toutes les variables. La conséquence de ça, c'est qu'il est difficile de maintenir ce qu'on appelle des invariants, c'est-à-dire des propriétés qui doivent être vraies en permanence. Imaginez des choses simples comme telle variable globale doit toujours être strictement positive, ou doit toujours être paire, ou doit toujours être la somme de deux autres variables globales. Évidemment, c'est difficile de maintenir ces invariants si toutes vos fonctions peuvent modifier toutes vos variables. Il faut se projeter dans des logiciels qui seraient pas simplement des logiciels qui tiendraient sur une page, des microprogrammes qui seraient composés d'une dizaine de lignes. Il faut imaginer que l'on cherche à maintenir des logiciels qui ont des centaines de milliers, voire des millions de lignes. Vous voyez comment, dans ces conditions, il est difficile de maintenir les invariants si chaque fonction peut modifier chaque variable. D'où l'idée de l'encapsulation, qui va consister à répartir les éléments précédents dans les nouvelles constructions qu'on appelle des objets ici. Et à l'intérieur de mes objets, je vais avoir deux types d'entités. Je vais avoir des variables, qu'on appelle parfois variables d'instance, d'où le i ici, et des méthodes qui sont l'équivalent de mes fonctions, tout simplement. Et ce que je fais figurer sur ce transparent, c'est que je vais avoir différents objets qui vont avoir leur propre variable d'instance et leur propre méthode. Donc vous voyez déjà une forme de répartition différente du transparent précédent. Et surtout, ce qu'on va constater en pratique, c'est que si ce regroupement de variables d'instance et de méthode est fait intelligemment, proprement, la plupart des accès aux variables vont se faire par les méthodes du même objet. Ce que j'ai figuré ici par les flèches verticales. Vous allez continuer à avoir des flèches entre les objets, mais elles sont moins nombreuses. La plupart du temps, une méthode accédera à ses propres variables d'instance. Pourquoi est-ce que c'est un pas en avant par rapport au modèle précédent? Parce que vous allez regrouper, comme le montre le transparent précédent, les variables pour limiter les accès depuis l'extérieur. Évidemment, ce regroupement, il n'est pas arbitraire. Vous allez regrouper les fonctionnalités par thème. Ça correspond à des principes de programmation que vous pouvez trouver sous les noms de Single Responsibility ou Separation of Concerns. Separation of Concerns, c'est l'idée que si vous vous intéressez à des choses différentes, pensez par exemple à un système qui doit envoyer des mails et accéder à la base de données, bien ces deux types de fonctionnalités vont vivre dans des objets différents et séparés. Et chacun de ces objets aura une seule responsabilité, dans mon exemple, l'accès à la base de données ou l'envoi de mails. La conséquence de ça, et c'est au fond ce qui nous intéresse, c'est la raison pour laquelle l'encapsulation a été mise en place et est très utile en pratique, c'est que les invariants sont plus faciles à maintenir. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que là où auparavant, pour vérifier si un invariant était effectivement toujours vrai, il fallait d'une certaine manière que je m'intéresse au code de toutes les fonctions de mon programme, vous pensez encore une fois centaines de milliers de lignes, maintenant, si tous les accès sont faits à l'intérieur de l'objet, je peux me concentrer seulement sur les méthodes de cet objet qui, en toute hypothèse, en termes de nombre de lignes, sont plusieurs ordres de grandeur plus petites. Et par rapport au transparent précédent, un raffinement supplémentaire pour éviter ces accès obliques va être d'obliger ici mon objet sur la droite lorsqu'il veut accéder à une variable d'instance de l'objet sur la gauche de passer par ce que l'on appelle, pardon, un accesseur ici. Vous savez, une indirection qui, comme vous le voyez, in fine, va venir accéder à la variable d'instance de l'objet de gauche. L'idée de cette indirection, c'est que ici, l'objet qui est responsable de cette variable d'instance va pouvoir faire un certain nombre de vérifications. La solution, plus généralement, c'est ce qu'on appelle le contrôle d'accès. Par exemple, ce que j'ai illustré sur le transparent précédent, c'est le fait que seules les méthodes d'un objet peuvent accéder à ces variables d'instance. Alors, si vous êtes un autre objet, vous allez devoir passer par un accesseur qui va pouvoir faire un certain nombre de vérifications. Ces vérifications sont évidemment liées à la notion d'invariant. Comme je vous l'ai déjà dit, la grande idée de l'encapsulation, c'est que maintenant, les invariants, la question de leur maintien, se fait à l'échelle de l'objet plutôt qu'à l'échelle du logiciel dans son entier. Ce qui est évidemment un énorme gain en termes de complexité. Cette présentation est très générale, très abstraite. On va voir plus tard comment ça s'instancie en Python. J'insiste simplement sur le fait que les modalités exactes dépendent du langage. Donc ce que je vais dire plus tard dans d'autres vidéos sur Python ne s'applique pas à d'autres langages.